Une seule offrande, divers sacrifices. Préface. Ces pages, résultant d'entretiens avec des jeunes croyants, cherchent à mettre à leur portée l'enseignement si riche et vaste des sacrifices lévitiques. Elles sont forcément incomplètes. Nous voudrions donc mettre à cœur de nos lecteurs d'approfondir le sujet à l'aide des ouvrages qui ont été en bénédiction à bien des générations successives tels que C.H. McIntosh, Notes sur le Lévitique, J.N. Darby, Études sur la parole, tome 1, Pentateuque, auxquels d'ailleurs nous avons emprunté plus d'une des pensées citées dans ces lignes. Georges André. Introduction. Une seule offrande, divers sacrifices, Lévitique chapitre 1 à chapitre 7. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2, verset 2. Nous nous sommes occupés précédemment, sous le titre de « Cinq villages », de la vie du Seigneur Jésus, Bethléem où il est né, Nazareth où il a été élevé, Capernaum, centre de son ministère en Galilée, Béthanie, où il a particulièrement manifesté sa gloire, Emmaüs, où ressuscité il faisait brûler le cœur de deux disciples. Nous voulons maintenant considérer la mort du Seigneur Jésus, l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes, Hébreux 10, verset 10, sujet éternel de l'adoration des rachetés, que nous ne pouvons certes pas sonder ici-bas, mais dont le Seigneur désire occuper nos cœurs. Déjà, dans sa vie, ne commençait-il pas à enseigner ses disciples « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort » Marc 8, verset 31. Et quand il traversait la Galilée, il enseignait ses disciples « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir » Marc 9, verset 31. En chemin, montant à Jérusalem, prenant encore une fois les douze avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver. Le Fils de l'homme sera livré, ils le condamneront à mort. Chapitre 10, verset 33. Mais les disciples ne comprenaient pas ce discours et craignaient en le suivant. Il a fallu le jour de la résurrection et le merveilleux entretien des disciples sur le chemin d'Emmaüs, pour faire brûler les cœurs en leur expliquant dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? Maintenant, enfin, le voile était ôté pour eux, sinon pour le peuple. 2 Corinthiens 3, verset 14.
Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ.
Il discernait sous les récits et les types de l'Ancien Testament, sous les innombrables sacrifices dont le sang avait coulé à travers les siècles, la figure de la seule offrande par laquelle il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Pour nous aussi, le voile est ôté. Et conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons considérer dans ces sacrifices d'autrefois autant d'images, autant d'aspects divers du parfait sacrifice qui devait être accompli à la croix. Si Dieu a voulu nous conserver ces ordonnances qui ne s'appliquent plus à nous et n'étaient qu'une ombre des biens à venir, c'est qu'elles nous aident à entrer dans une mesure plus grande et plus précise dans la connaissance de la personne et la compréhension de l'œuvre de celui qui a pu dire « Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. » Une demeure, des sacrificateurs, des sacrifices. Dans l'Exode, nous voyons comment Dieu a voulu tirer son peuple d'Égypte, non seulement afin de le délivrer de l'esclavage du Pharaon, mais pour l'avoir à lui. « Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Exode 4, verset 23. Mais le peuple était pécheur, et il a fallu le sang de la Pâque sur chaque maison pour qu'il soit épargné de l'ange destructeur. À travers la mer Rouge et le désert, ils ont été conduits jusqu'au Sinaï, où Dieu peut leur dire « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amenés à moi. » Exode 19, verset 5. Et l'Éternel d'ajouter « Et maintenant, vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Le prophète précisera « J'ai formé ce peuple pour moi-même, ils raconteront ma louange. » Ésaïe 43, verset 21. Hélas, Israël n'a pas répondu à ce que Dieu avait en vue pour lui. Ils se sont vite corrompus et détournés. C'est alors que, parlant de la montagne de Sinaï, l'Éternel a donné les instructions pour construire le tabernacle, une demeure où Dieu pouvait habiter au milieu de son peuple. Dans l'Exode encore, les sacrificateurs, la famille d'Aaron, sont institués, chapitres 28 et 29. Dans le Lévitique, Dieu parlera de la tente d'assignation pour indiquer à son peuple comment ceux qui sont dehors peuvent s'approcher de lui dans son sanctuaire. Dans les Nombres, chapitre 1, verset 1, Dieu parle à Moïse au désert pour la marche vers Canaan.
Et l'Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï dans la tente d'assignation le premier jour du second mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte.
Au début du Deutéronome, chapitre 1, verset 1, l'Éternel parle en deçà du Jourdain en vue du pays de Canaan. Comment faudra-t-il s'y comporter?
Deutéronome 1, verset 1, ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suf, entre Paran et Tophel, Laban, Hatzéroth et Dizahab.
Nous avons ainsi, à la fin de l'Exode et au début du Lévitique, une maison où les sacrifices sont offerts. Nous apprenons qui peut s'approcher, sacrificateurs et adorateurs, et comment ils le font avec un sacrifice. Lévitique chapitre 1 à chapitre 7. 1 Pierre 2, verset 5 nous donne la contrepartie actuelle de ces ombres d'autrefois. Vous approchant du Seigneur comme d'une pierre vivante, vous-mêmes aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous trouvons de nouveau une maison des sacrificateurs et des sacrifices, mais il s'agit d'une maison spirituelle, l'ensemble des pierres vivantes, tous les rachetés du Seigneur qui ont en lui trouvé la vie éternelle et forment sa maison, son assemblée. Malgré la ruine actuelle, nous pouvons en quelque mesure jouir des privilèges de cette maison spirituelle en nous réunissant autour du Seigneur Jésus, comme appartenant à l'Assemblée de Dieu. Aujourd'hui, son sacrificateur, une sainte sacrificature, non une seule famille telles autrefois Aaron et ses fils, mais tous les rachetés, comme le dit Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Les chrétiens sont à la fois adorateurs, sacrificateurs et fils. Ce ne sont plus des sacrifices sanglants qui doivent être offerts, mais des sacrifices spirituels, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui bénissent son nom. Hébreux 13, verset 15.
Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom.
Cette louange n'est pas uniquement la reconnaissance de nos cœurs d'avoir été sauvés, quoiqu'elle soit certainement à sa place. Il y a infiniment plus. nous ne venons pas devant le Père seulement pour lui rendre grâce, mais surtout pour lui parler de son Fils et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Devant lui, nous rappelons cette seule offrande de son corps accomplie une fois pour toutes. Il ne s'agit d'aucune manière quelconque d'une répétition du sacrifice, mais dans les prières, dans les cantiques ou dans la scène, on rappelle la mort du Seigneur, on en considère devant Dieu avec reconnaissance et adoration les divers et merveilleux aspects. « Je ferai le tour de ton autel », psaume 26, verset 6. La nécessité du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, une foule de types nous parle de la mort de Christ. Tous ont ceci de commun, ils ne sont pas avant tout un exemple d'amour ou de dévouement, mais présentent une vie donnée à la place d'une autre. Jésus-Christ n'est pas mort seulement parce qu'il a été dévoué, afin d'être un modèle d'amour et d'abnégation, mais, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. Ces types placent devant nous autant d'aspects divers de la mort de Christ. Les vêtements de peau, un animal avait donc été immolé, de Genèse 3, verset 21, rappelle comment Dieu pourvoit à la nudité du pécheur.
Genèse 3, verset 21, « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. »
Le sacrifice sanglant d'Abel apportant les premiers-nés de son troupeau montre la nécessité du sang répandu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, verset 22. Alors que l'offrande de Caïn, fruit de son travail sur une terre maudite, n'est pas agréée. En Genèse 22, Abraham offre Isaac comme Dieu donnera son fils. Mais, de fait, le sacrifice d'Isaac n'est pas consommé. À sa place, un bélier est offert en holocauste. Lors de la Pâque, le sang de l'agneau devait être mis sur chaque porte, appropriation personnelle du sacrifice de Christ. Le serpent d'airain au désert nous rappelle Jésus fait malédiction pour nous. Ésaïe 53 dit expressément « Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. » Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. À la fin du chapitre, le prophète souligne quatre aspects de la croix. Il aura livré son âme à la mort, il aura été compté parmi les transgresseurs, il a porté le péché de plusieurs, il a intercédé pour les transgresseurs. Parmi tous ces types, les chapitres 1 à 7 du Lévitique se détache comme nous donnant l'institution divine des principaux sacrifices. Les sacrifices de Lévitique chapitre 1 à chapitre 7. Nous trouvons dans ces chapitres quatre principaux sacrifices, selon Hébreux 10, verset 8.
Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi.
Lévitique chapitre 1, l'Holocauste. Lévitique chapitre 2, l'offrande de gâteau. Lévitique chapitre 3, le sacrifice de prospérité ou de paix. Lévitique chapitre 4 à chapitre 5, verset 13, le sacrifice pour le péché qui est intimement lié à Lévitique chapitre 5, verset 14 à 26, le sacrifice pour le délit. Dans les chapitres 6 et 7, nous avons la loi, c'est-à-dire les ordonnances relatives à ces sacrifices. Ces divers sacrifices se divisent en deux classes. Petit a, les sacrifices volontaires en odeur agréable à l'Éternel, l'holocauste, l'offrande de gâteau et le sacrifice de prospérité. Ils étaient en tout ou en partie brûlés sur l'autel. Ici, le verbe brûler est dans l'original le même que celui employé pour brûler l'encens. ils nous parlent tous trois de l'excellence de Christ et de son dévouement jusqu'à la mort. Petit b, les sacrifices obligatoires, pour le péché et pour le délit. Si quelqu'un avait péché, il devait offrir un tel sacrifice pour être pardonné. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les victimes n'étaient pas placées sur l'autel, sauf le sang et la graisse. Elles étaient soit brûlées hors du camp, un autre verbe est employé dans l'original que pour les sacrifices de bonne odeur, soit mangées par le sacrificateur. Signification. Indiquons brièvement la signification essentielle de ces quatre sacrifices. L'Holocauste était brûlé tout entier sur l'autel. C'est Christ livrant sa vie à la mort, s'offrant pour la gloire de Dieu, victime parfaite, accomplissant ainsi toute sa volonté. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. L'offrande de gâteau ne comportait ni sang, ni victime égorgée. C'est la perfection de la nature et de la vie de l'homme Christ Jésus, souffrant et éprouvé. Une partie de l'offrande était brûlée sur l'autel pour Dieu, une partie était mangée par le sacrificateur. Le sacrifice de prospérité ou de paix avait ceci de particulier qu'une partie, la graisse, était offerte à Dieu sur l'autel, une partie, l'épaule et la poitrine, était mangée par les sacrificateurs, le reste était pour l'adorateur et ses invités. Quiconque est pur, chapitre 7, verset 19.
Quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair.
Il rappelle donc la paix que Jésus a faite par le sang de sa croix, de sorte que nous avons pleine communion avec Dieu dans le sacrifice de son Fils. Ce privilège est particulièrement mis en évidence dans la scène, communion du sang du Christ, communion du corps du Christ. Le sacrifice pour le péché et le délit était obligatoirement offert par le coupable afin d'être pardonné. Les péchés spécifiques devaient en outre être confessés. Chapitre 5, verset 5.
Et il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera ce en quoi il aura péché.
Ce en quoi on avait fait tort devait être restitué. Chapitre 5, verset 16 et 24.
Et ce en quoi il a péché en prenant de la chose sainte, il le restituera et y ajoutera par-dessus un cinquième et le donnera au sacrificateur, et le sacrificateur fera propitiation pour lui avec le bélier du sacrifice pour le délit, et il lui sera pardonné. Tout ce à l'égard de quoi il a juré en mentant, et il restituera le principal et ajoutera un cinquième par-dessus. Il le donnera à celui à qui cela appartient le jour de son sacrifice pour le délit.
Ces divers sacrifices sont donc autant d'aspects de l'œuvre de Christ. De fait, ils sont intimement liés les uns aux autres. L'Holocauste et le sacrifice pour le péché étaient égorgés au même endroit. Chapitre 7, verset 2. Au lieu où l'on égorge l'Holocauste, on égorgera le sacrifice pour le délit, et on fera aspersion de son sang sur l'autel. La graisse du sacrifice de prospérité était brûlée sur l'Holocauste, chapitre 3, verset 5.
Et les fils d'Aaron feront fumer cela sur l'autel, sur l'Holocauste qui est sur le bois, qui est sur le feu. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel.
L'Holocauste et l'offrande de gâteau étaient presque toujours offerts ensemble. L'ordre des sacrifices. Pourquoi l'Holocauste nous est-il présenté d'abord, alors que, tout naturellement, nous aurions placé le sacrifice pour le délit et le péché en premier lieu? En nous donnant la révélation de sa parole, Dieu procède de l'intérieur vers l'extérieur. Pour le tabernacle, il ne nous présente pas tout d'abord le parvis, puis le lieu saint et le lieu très saint, mais il place devant nous premièrement l'arche, puis les objets du lieu saint, puis le tabernacle lui-même, et enfin le parvis. De même, dans les sacrifices, l'holocauste vient en premier lieu, suivi de l'offrande de gâteau, du sacrifice de prospérité et du sacrifice pour le péché. La perfection de la victime, son dévouement à Dieu, ont la première place. C'est d'ailleurs une conséquence de son dévouement à la volonté de Dieu qu'il ait été fait péché pour nous. Il fallait que fût placé sous nos yeux tout d'abord ce que Christ est pour Dieu, ce que lui seul peut apprécier pleinement. Un sacrificateur est une personne spirituelle, 1 Corinthiens 2, verset 15, qui considère premièrement ce qui est dû à Dieu.
1 Corinthiens 2, verset 15, « Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. »
Ce n'est aussi que dans la mesure où nous connaissons la grandeur du sacrifice de Christ que nous pouvons saisir la gravité du péché. À nos yeux, un péché compte par ses conséquences, soit pour nous-mêmes, soit pour notre famille, soit au point de vue social. Mais quand nous contemplons l'immense sacrifice qui a été nécessaire pour ôter le péché, nous en comprenons un peu mieux le sérieux. Que Dieu ait dû être manifesté en chair et habite au milieu de nous, qu'après avoir fait briller sa perfection comme homme sur la terre, le Fils de Dieu s'offre lui-même en sacrifice, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour ôter les péchés, nous fait saisir bien mieux et bien plus profondément que toute autre chose, citation de J.N. Darby, qu'un seul péché est plus affreux pour Dieu que ne le sont pour nous 1000 péchés, et même tous les péchés du monde. Fin de citation. Mais s'il est question du chemin qui nous amène à Dieu, le sacrifice pour le péché vient en premier lieu. Sa valeur est infinie et pourtant il importe de n'en pas rester là. Savoir que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché est la base de notre foi, mais ce n'est pas tout de se savoir purifié. Il s'agit de saisir que nous avons la paix avec Dieu et partant communion avec lui au sujet de son Fils. Il faut entrer plus avant et discerner les perfections de celui qui a vécu dans ce monde et s'est offert en sacrifice. Enfin, il importe de comprendre que lui seul a pleinement répondu à tout ce que Dieu désirait, et que maintenant Dieu nous voit en lui, agréés, rendus agréables dans le bien-aimé. Dans la « Loi des sacrifices », chapitre 6 et chapitre 7, après avoir parlé de l'Holocauste et de l'offrande de gâteau, l'Esprit de Dieu place devant nous le sacrifice pour le péché, avant le sacrifice de prospérité. En effet, il ne faut plus avoir besoin de s'occuper de soi-même ou des torts faits à nos frères pour jouir sans entrave de la communion avec Dieu et avec les autres. C'est l'ordre que nous suivrons dans notre étude. Nous remarquerons enfin que si les pages de l'Ancien Testament, et tout spécialement ces sacrifices du Lévitique, place devant nous à maintes reprises la mort de Christ, il n'y est que très rarement fait allusion à sa résurrection. Deuxième oiseau dans la purification du lépreux, Lévitique chapitre 14, gerbe des prémices, Lévitique chapitre 23. Mais aujourd'hui, si nous pouvons nous souvenir d'un sauveur qui a été mort, nous connaissons un Seigneur vivant. J'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, Apocalypse 1, verset 18. Et non seulement Jésus ressuscité, mais Jésus élevé dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de siège. Leur service n'étant jamais terminé, les sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir. Mais le Seigneur Jésus, ayant accompli une œuvre parfaite, qui ne sera jamais répétée, a pu s'asseoir dans le sanctuaire. C'est ainsi que nous le considérons maintenant. Plus encore, nous attendons son retour pour nous prendre auprès de lui, ce qu'ignoraient les saints d'autrefois. Le coût du sacrifice. En 1 Chronique 21, verset 24, David indique qu'il ne veut pas offrir à l'Éternel un holocauste qui ne coûte rien.
1 Chronique 21, verset 24. Et le roi David dit à Ornan, « Non, car certainement je l'achèterai pour son plein prix en argent, car je ne prendrai pas pour l'Éternel ce qui est à toi, pour offrir un holocauste qui ne coûte rien.
Les sacrifices spirituels que nous offrons aujourd'hui nous coûtent-ils donc quelque chose? Il ne s'agit pas ici d'apporter ni son dévouement, ni son service, ni son argent, chacune de ces choses à sa place, mais pas dans la louange rendue à Dieu. Qu'est-ce qui peut donc nous coûter dans ce fruit des lèvres qui bénisse son nom? Tout vient de toi, et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. 1 Chronique 29, verset 14, dit David. Christ a tout fait pour nous, mais c'est dans la mesure où nous l'apprécions, où nous le saisissons par la foi, où nous entrons dans la grandeur de son œuvre et de sa personne, que nous pouvons ensuite en parler à Dieu intelligemment et selon lui. Un exercice personnel de cœur n'est-il pas nécessaire pour s'approprier ces choses ou, comme le dit Pierre, pour croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? En Israël, les uns apportaient des taureaux, les autres, qui n'en avaient pas le moyen, pouvaient offrir seulement des brebis ou des chèvres, et ceux qui étaient trop pauvres, des oiseaux. Chacun de ces holocaustes représentait Christ. Chacun d'eux était de bonne odeur. Mais l'Éternel aurait-il agréé celui qui, pouvant apporter un taureau, se serait contenté d'un oiseau? Il avait dit à plus d'une reprise, « On ne paraîtra pas avide devant ma face. » Et plus tard, il instruira son peuple à remplir leur corbeille pour venir au sanctuaire, Deutéronome chapitre 26. Il importe donc d'être dans l'état moral convenable et de faire l'effort de prendre le temps d'entrer dans ces choses, de les considérer à travers la parole dans la présence de Dieu. Ainsi, tout particulièrement au culte, nous ne viendrons pas avec des cœurs vides ou qui n'aient que quelques vagues pensées au sujet du Seigneur Jésus, mais avec des cœurs remplis de son amour, capables d'offrir de vrais sacrifices spirituels. Conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui seront la bouche de l'Assemblée donneront expression aux actions de grâces et aux louanges dont tous seront remplis. Et Dieu qui lit dans les cœurs y appréciera tout ce qu'il verra de son Fils. Deux dangers nous menacent. Celui qui devrait apporter un taureau, Hébreux 5, verset 12, et se contente d'un oiseau, montre le peu de cas qu'il fait du Seigneur Jésus et de son sacrifice.
Hébreux 5, verset 12, « Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. »
Mais celui qui n'a dans son cœur que ce qui correspond à un oiseau et se donne l'apparence d'apporter un taureau, prononçant des phrases et utilisant des expressions qui dépassent la mesure de sa foi et la réalité de ses affections, manque certainement plus gravement. Mais que dire de celui qui, selon Malachie 1, verset 8, apporterait une bête aveugle ou boiteuse?
Et si vous présentez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Et si vous en présentez une boiteuse et malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. T'agréera-t-il ou te recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées?
Par exemple, des pensées au sujet du Seigneur et de son œuvre qui seraient le fruit de sa propre imagination ou entachées d'erreurs. Prenons garde, tout particulièrement pour ce qui concerne la personne de Christ et son sacrifice, d'être formés exclusivement par la parole de Dieu. C'est une question de cœur. Jérémie 30, verset 21 pose la question « Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi ?» Nous sentons, en nous occupant de ces chapitres, qu'il y a là des profondeurs et des hauteurs qui dépassent de beaucoup tout ce que nous pouvons concevoir. Mais cela nous découragera-t-il? Ne ferons-nous pas un effort? Ne paierons-nous pas le prix nécessaire pour, conduits par l'Esprit de Dieu, entrer dans ces choses et avoir une communion plus réelle avec le Père qui a pu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, de Timothée 2, verset 7.